France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Des rafales pour l'Ukraine. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky l'annoncent ce matin. À Paris, la livraison d'une centaine d'avions dans les 10 prochaines années. Programme très ambitieux. Nous verrons quelles sont les coulisses de cet accord dans un instant. À suivre encore l'industrie française. La face sombre. Les salariés de l'aciériste Novasco suspendus à la décision du tribunal de Strasbourg. Nous serons à Agondange en Lorraine. La face claire. La plus grande usine de parfums de luxe au monde va s'agrandir. Département de l'Aisne. Nous serons sur place. La mort suspecte d'une jeune de 17 ans à Roubaix. Elle pourrait avoir consommé du gaz hilarant. Et puis les vaccins contre les cancers du col de l'utérus. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour Jérôme.
Ces vaccins ont sauvé dans le monde plus d'un million de vies.
Oui, plus d'un million de vies ces trois dernières années dans les pays pauvres. Et ce, grâce à un mécanisme de solidarité internationale, l'Alliance Gavi, qui négocie des vaccins à bas prix pour ces pays.
Vous nous direz aussi que ça marche moins bien en France. À partir de 13h30, nous écoutons de plus en plus de musique créée par l'intelligence artificielle. Alors quel avenir pour la création et pour les créateurs? La directrice générale de la SACEM qui les représente est avec nous. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, notre feuilleton, nous sommes au large de l'Italie, au pied du volcan Stromboli.
Là on se dirige vers le nord de l'île où on peut un peu mieux voir le volcan.
Et comme on est dans le vent, on reçoit actuellement des petites cendres volcaniques.
C'est vraiment l'endroit où la majorité des matériaux des éruptions se propage en fait, ça peut rouler jusqu'à la mer.
Et nous suivons des vulcanologues. 13h50, c'est la France. Un couple du Loiret fait inscrire un arbre, un séquoia, dans son testament, récite Cécilia Arbona. Juste avant 14h, c'est une chanson. La chef d'orchestre Sol Ray demande Chico Buarque à Frédéric Pommier. Sans oublier les prévisions météo de votre début de semaine. Temps maussade et température qui vont encore baisser. Ce sera dans une petite demi-heure. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Jusqu'ici, la France n'avait livré que des Mirage 2000 à l'Ukraine. Elle passe donc désormais à l'échelon supérieur avec l'annonce ce matin de la vente de 100 avions Rafale, ce qui serait la plus grosse commande d'un pays étranger pour cet appareil. L'annonce a été faite ce matin à l'occasion de la visite en France, la 9e du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est rendu sur la base aérienne de Villacoublay aux côtés d'Emmanuel Macron. Bonjour Éric Bégala.
Bonjour Jérôme.
Vous suivez cette visite pour Inter. Éric, que contient précisément cet accord ?
Alors, nous n'avons pas encore le détail de ce que contient cette lettre d'intention. Ce n'est pas un accord, c'est une lettre d'intention. Elle a été signée ce matin par les deux présidents sur le tarmac de la base aérienne 107 de Villacoublay. Mais le président Zelensky a bien voulu nous en révéler quelques éléments juste après cette cérémonie de signature. 100 rafales, 100 avions rafales donc, mais aussi, le président ukrainien le précise, des batteries de défense aérienne SAM-TP ou Mamba, que le président ukrainien estime d'ailleurs être les meilleurs du monde. Et il sait de quoi il parle, puisqu'une batterie Mamba a été cédée à l'Ukraine par l'Italie et participe effectivement à la défense de l'Ukraine en interceptant les missiles russes avec une réelle efficacité.
Pourquoi cette lettre d'intention donc, Éric, je reprends l'expression, pourquoi cette lettre d'intention maintenant ?
Eh bien parce que l'Ukraine s'est lancée dans un très lourd programme d'armement qui vise notamment à la doter d'une armée de l'air moderne et complètement renouvelée. Une semblable lettre d'intention a été signée avec la Suède il y a quelques semaines pour équiper l'armée de l'air ukrainienne de 100 à 150 chasseurs Gripen. La lettre d'intention signée ce matin vise donc 100 rafales, ce qui permettrait d'armer l'Ukraine de quelques 200 chasseurs bombardiers de dernière génération. Mais ça, ce sera à terme, pas pour tout de suite. Autrement dit, pour ce qui est des rafales, par exemple, au rythme actuel de production des usines d'assaut, il faudra au moins 3 ans pour produire les 100 rafales ukrainiens.
Merci Éric Bégala. En direct avec les moyens techniques de Romain Lukiens, j'ajoute que demain, le président ukrainien se rendra à Madrid pour y rencontrer le Premier ministre espagnol, mais que sa visite en France est loin d'être terminée. Pour comprendre les enjeux de cet accord annoncé ce matin, Michel Goya est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être l'invité de ce 13-14, ancien colonel de l'armée française, expert en stratégie. Vous suivez au jour le jour le conflit entre l'Ukraine et la Russie que vous documentez. Théorie du combattant aux éditions Perrin, c'est votre dernier ouvrage. Michel Goya, Volodymyr Zelensky, on l'a entendu, parle d'un accord historique. Est-ce qu'à vos yeux, c'est le cas ?
Effectivement, on serait en temps de paix, on parlerait d'un contrat du siècle, on parlerait de quelque chose de très important. On est sur des volumes industriels, des volumes financiers aussi, hein, on en reparlera, qui sont effectivement très importants. Et c'est important aussi politiquement pour Volodymyr Zelensky de montrer qu'il bénéficie encore du soutien de la France dans une période qui est un peu difficile, et sur un soutien sur une très longue durée. Donc oui, c'est un contrat historique, mais c'est un contrat pour le futur.
Oui, cela pose pas mal de questions. Il faut les produire, déjà, ces rafales. Combien est-ce qu'on en fabrique par an ? Est-ce qu'on le sait ?
On fabrique pendant longtemps, on n'en fabriquait qu'un seul, par mois.
D'accord.
On est passé maintenant à une cadence de 3 par mois, sauf le mois d'août, qui est quand même, on est en vacances, on est quand même en France. Et là, pour ça, Mal Dassault envisage de passer à une construction de 5 par mois, sachant qu'il y a cette commande, mais il y a encore 239 avions Rafale à fournir à des clients étrangers, déjà, sur des commandes déjà signées.
Donc ça prend du temps, On ne va pas leur livrer 100 Rafales demain. Il y a aussi la question de l'argent. Combien ça coûte à la vente un Rafale, Michel Goyet ? Est-ce qu'on a une idée du prix ?
Oui, alors si vous voulez, le Rafale nu qui sort de l'usine, il doit coûter aux alentours de 80 millions d'euros. Vous rajoutez tous les sous-systèmes, plus et surtout les équipements, l'armement, toutes les munitions, on arrive à 130 millions d'euros. Et si vous ajoutez après la maintenance, le suivi industriel de l'appareil sur toute sa vie, les réparations, les pièces détachées, etc., ça peut aller, comme pour le contrat avec l'Inde, à plus de 200 millions d'euros.
Donc on est entre 8 et 20 milliards si on multiplie par 100.
Oui.
L'Ukraine a les moyens d'acheter ces 100 appareils ?
Incontestablement, non. Sachant que ça a déjà été évoqué, il y a aussi une commande d'une centaine Gripen suédois qui sont peut-être un petit peu d'un coût un peu inférieur, mais ça reste quand même des programmes colossaux. Les batteries, on parlait des batteries solaires moyenne portée, les Mamba. Mais une batterie, ça coûte presque 1 milliard d'euros de nouvelle génération. Donc, on est sur des sommes qui sont effectivement colossales. Et comment on va financer cette affaire ? C'est une bonne question. On passera peut-être certainement par une structure commune, par l'Union européenne, peut-être par la structure d'aide de l'OTAN, peut-être par un emprunt. On ne sait pas trop. Là, pour l'instant, ça reste aussi flou quand même. Il faut bien le dire, hein, ça a été évoqué, ouais. C'est une lettre d'intention, hein, on est encore loin de la commande ferme. Donc ça reste assez flou, mais on trouvera certainement une solution. Oui.
Ça veut dire que c'est aussi une annonce qui tient du symbole. Il faut montrer aujourd'hui, les temps sont difficiles pour l'armée ukrainienne qui recule, notamment autour de Pokrovsk. Et puis il y a ces scandales de corruption qui ont éclaboussé des proches de Volodymyr Zelensky. Il fallait montrer ce matin que la France était toujours là.
Oui, que la France continuait à soutenir l'Ukraine. Il fallait que Volodymyr Zelensky offre une victoire d'une certaine façon à son pays. La situation est compliquée sur le front. La situation est compliquée à l'intérieur. Vous l'avez évoqué, un grand scandale de corruption. La situation est compliquée militairement également sur l'arrière, qui est bombardée tous les jours par les Russes. Et donc là, il essaie d'offrir une bonne nouvelle aux Ukrainiens et de la part des Français et des Européens, c'est une manière aussi de dire voilà, mais on est toujours là et on est là sur la durée, parce que ce contrat, mais il y a eu le président ukrainien est allé visiter aussi le quartier général de la future force multinationale de protection de l'Ukraine.
Ouais.
Donc des choses qui se mettent en place pour l'avenir. Les Européens disent voilà, mais nous sommes là et nous sommes là pour longtemps.
Un dernier mot, Michel Goyet, précisément sur cet appareil, le Rafale. Alors c'était la première version, il y en a une autre depuis, mais date de 1985. Évidemment, il a beaucoup évolué, mais il est encore à la pointe. Est-ce que c'est l'un des tout meilleurs avions au monde ou pas plus vraiment ?
Oui, non, mais bien sûr, cet avion, il évolue. Hein, la version F4 actuelle, elle n'a plus grand-chose à voir, sinon l'apparence, avec la première version des années 90. Donc, il évolue. C'est un appareil qui est qui est polyvalent, vraiment polyvalent. C'est pas le cas de d'autres appareils, mais il est un excellent chasseur bombardier. Enfin, il est un excellent bombardier, il est un excellent chasseur. Il peut faire du renseignement. C'est un appareil qui est à la pointe et qui évolue encore. Donc non, c'est ce qui se fait de mieux. Clairement dans le monde dans le domaine ce qu'on appelle non furtif, voilà. Si vous voulez comparer avec le F-35, son seul avantage du F-35, c'est qu'il est un peu plus furtif au radar, mais avec d'autres inconvénients par ailleurs.
F-35 américain. Merci Michel Goya pour cet éclairage dans le 13-14 sur France Inter, expert en stratégie. Votre dernier ouvrage, Théorie du combattant, c'est aux éditions Perrin. J'ajoute dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie cet acte de sabotage sans précédent découvert en Pologne sur une voie ferroviaire menant vers l'Ukraine. Des rails ont été endommagés par une explosion, déplore ce matin le Premier ministre polonais Donald Tusk. À Gondange, en Moselle, on produit de l'acier dans cette commune lorraine depuis 1912. Louis Renault avait choisi ce site en 1932 pour fournir les tôles de ses voitures. 7000 salariés à la Libération. Le dernier vestige de cette histoire, c'est l'acierie Novasco. Et bien après des années de déclin, cette histoire est quasiment terminée. Le tribunal de Strasbourg doit désigner aujourd'hui le repreneur du groupe, et le repreneur qui est pressenti ne conserverait que l'usine de Lefrancouc près de Dunkerque. Les trois autres sites, Saint-Étienne, Custine en Meurthe-et-Moselle et donc à Gondange. Ces trois sites seraient liquidés. On attend l'annonce dans la journée. Bonjour Laurine Benjebria.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour Inter. 430 emplois concernés à Gondange où vous vous trouvez. Les salariés sont réunis depuis ce matin en assemblée générale et l'attente commence à être longue.
Oui, parce que personne ne comprend pourquoi cela prend autant de temps. Ils sont arrivés à 7h ce matin. L'attente est si longue que la plupart des salariés sont partis se réchauffer. Ils ne sont actuellement plus qu'une vingtaine réunis autour d'un feu de palette, mais l'ensemble de leurs collègues leur ont promis de revenir cet après-midi pour entendre côte à côte cette décision du tribunal de Strasbourg, même s'ils savent déjà que leur sort est déjà scellé, leur site sera liquidé et 430 personnes perdront donc leur emploi. En fait, ce qui se joue véritablement, ce sont les négociations du plan de sauvegarde de l'emploi. Les montants des indemnités proposées sont jugés pour l'instant dérisoires. 15 000 euros pour 15 années passées ici, c'est vraiment rien, s'agace par exemple un salarié. Alors, le gouvernement menace de saisir la justice contre le fonds d'investissement britannique Greybull, qui a repris l'acieriste il y a un an. Le ministre délégué à l'industrie, Sébastien Martin, le qualifie même de voyou et l'accuse de ne pas avoir tenu ses engagements financiers, les 88 millions d'euros promis il y a un an. Mais les métallos d'Agondange n'y croient plus et dénoncent aujourd'hui des paroles lancées en l'air.
Merci Laurine Benjebria en direct d'Agondange avec les moyens techniques de Jérémy Thuil. Vous nous en avez dit un mot, Laurine. Le fonds d'investissement britannique Greybull qui a repris Novasco il y a un peu plus d'un an. À l'époque, l'État s'était engagé au moment de cette reprise à verser 85 millions d'euros pour favoriser l'activité. L'État a tenu parole. En revanche, Greybull avait promis d'injecter 90 millions d'euros et il n'a versé qu'un million et demi. Alors le gouvernement va poursuivre le groupe en justice. Le ministre délégué chargé de l'industrie, Sébastien Martin.
Le message, c'est qu'il n'y a plus d'impunité possible pour des fonds d'investissement qui se comporteraient mal. Parce que derrière, ce sont des familles, ce sont des territoires à qui on a fait des promesses et qui ne sont pas tenues. Et l'État, dans le dossier de Novasco, a été là, a été au rendez-vous, a tenu ses promesses. Et il y a un investisseur qui a mis 1,5 million sur la table alors qu'il devait en mettre 90. Donc moi, ça faisait 10 jours que j'étais en discussion pour lui demander de faire quelque chose pour le territoire. Je n'avais pas de réponse. Donc il y a un moment, maintenant, on agit et on explique que ceux qui se comportent mal, eh ben, ils devront rendre des comptes. Quand vous vous positionnez pour racheter un site et que vous dites que vous allez investir sur ce site et que vous ne le faites pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'immoral et même d'illégal. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'engager cette procédure. Et c'est aussi un signal envoyé à toutes celles et tous ceux qui voudraient venir faire leur marché en France. La France, c'est pas un marché. On vient pas pour dépecer des usines. On vient ici pour investir et pour soutenir des projets industriels.
Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
C'est vous qui avez fait réagir ce matin le ministre qu'on vient d'entendre en marge d'une visite dans l'Aisne, parce qu'en même temps que la sidérurgie française n'en finit pas de sombrer, le gouvernement met en avant aujourd'hui des entreprises françaises qui investissent. Illustration sur un site du groupe L'Oréal où vous vous trouvez, Luc, c'est à Gauchy dans l'Aisne, la plus grosse usine de parfums de luxe au monde va s'agrandir.
Oui, grâce aux 60 millions d'euros d'investissement du groupe L'Oréal. L'objectif, doubler la capacité de production de cette usine qui fabrique chaque jour 400 000 parfums, dont ceux de marques célèbres dans le monde entier, Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme ou encore Azzaro. L'idée à terme est d'ajouter une vingtaine de lignes de production. Pour L'Oréal, c'est l'occasion de rappeler son attachement à la France et sa volonté d'investir ici. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, en profite lui pour faire passer un message en plein débat parlementaire sur le budget.
L'équilibre budgétaire, c'est bien. La baisse de l'incertitude politique, c'est bien. Mais ça ne doit en aucun cas se faire sur le dos des grandes entreprises qui doivent continuer à produire, à exporter. Voilà, c'est un message que j'envoie à tous les parlementaires de l'Assemblée et du Sénat pour qu'on ait un budget équilibré. Les entreprises feront leur part de l'effort, mais il faut que tout le monde fasse son effort, et notamment du côté des dépenses.
Autre sujet fondamental pour le gouvernement est L'Oréal, et c'est l'opportunité de l'évoquer, l'impact des droits de douane américains. En France, les 15% de surtaxes, et qui touchent particulièrement les cosmétiques dont les États-Unis sont le premier marché à l'export. Antoine Venles, directeur des opérations de L'Oréal.
Évidemment, c'est une pression économique qui est importante pour le groupe L'Oréal. Il faut être très vigilant pour garder la compétitivité et l'agilité de nos sites industriels en France. Ces droits de douane asymétriques avec les États-Unis pèsent très lourd, je vous l'ai dit. 25% de ce qu'on produit ici est exporté aux États-Unis. Donc il est très important que l'environnement dans lequel on opère reste attentif à la création de valeur des entreprises et donc notre compétitivité.
Car d'après une étude de la Fédération des entreprises de la beauté, les exportations françaises de cosmétiques risquent de baisser de 21% l'an prochain aux États-Unis.
Au total, 9 milliards 200 millions d'euros d'investissements nouveaux sont annoncés aujourd'hui dans le cadre de ce sommet Choose France. Merci Luc Chemlin en direct de l'Aisne. Nous parlions à l'instant des fonds étrangers qui investissent en France et pas toujours avec succès. Alors là, c'était dans la sidérurgie. Il y a un secteur de notre économie qui les attire particulièrement, c'est le football. Un 11e club de Ligue 1 va passer sous contrôle d'un fonds d'investissement étranger. C'est le FC Lorient. Bonjour Noureddine Zidane.
Bonjour Jérôme.
Son président depuis plus de 15 ans, Loïc Ferry, veut vendre aux Américains.
Au groupe BKFC, Black Knight Football Club, déjà présent dans le capital du club depuis 3 ans. Et sa part va donc passer de 40 à 100%. C'est en cours de finalisation, précise le président Loïc Ferry. Ses arguments, une Ligue 1 de plus en plus concurrentielle, 18 clubs contre 20 il y a encore 2 saisons. Des actionnaires fortunés avec plus de moyens pour les transferts. Et la chute du montant des droits télé, une manne essentielle pour un club comme Lorient, 11e budget du championnat. Alors BKFC, c'est plus de 400 millions d'euros de fonds propres, un groupe déjà propriétaire de Moreirense au Portugal et Bournemouth en première ligue anglaise.
Il y a d'autres clubs français qui sont propriétés de fonds d'investissement, Lyon, Strasbourg ou encore Toulouse. Pourquoi cet appétit ?
Car le foot français représente une excellente affaire financière. Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business.
Un fonds aime bien acheter bas et revendre le plus haut possible. Et la difficulté économique des clubs français fait qu'il y a des clubs accessibles. Et l'autre point, c'est que dans le monde du football, là où on peut gagner de l'argent, c'est sur les droits ou sur le mercato. Or, la France est le pays qui vend le plus grâce à ses centres de formation.
Un modèle de la multipropriété pas toujours très bien vu par les supporters. Il dénonce une perte d'identité, surtout pour le petit club du groupe qui ne sert qu'à former ou stocker des joueurs pour le club phare, un peu comme à Strasbourg avec le puissant Chelsea.
Voilà, multipropriété quand un fonds d'investissement possède dans le monde plusieurs clubs en même temps. Merci Noureddine Zidane pour cet éclairage. 3 réseaux de distribution d'essence en Corse sont condamnés pour entente sur les prix. Total Energy, Ruby et EG Retail, sanctionnés à hauteur de 187 millions d'euros par l'autorité de la concurrence. En Corse, l'essence coûte en moyenne 6% de plus que sur le continent.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Les ravages du protoxyde d'azote. Suite, il y a 2 semaines à Lille, le jeune Mathis est tué par un chauffard qui fuit la police. Il a consommé, ce chauffard, du gaz hilarant. À l'époque, le maire de Lille dit sa colère. Le ministre de l'Intérieur se rend sur place. Eh bien, hier, tout près de Lille, à Roubaix, une adolescente de 17 ans a été retrouvée morte dans son appartement et son décès semble lié à une prise excessive de protoxyde d'azote, Romane Porcon.
C'est une voisine inquiète de ne plus avoir de ses nouvelles qui a alerté les secours et la police hier après-midi vers 15h. Au 3e étage de cet immeuble situé rue de Rouault à Roubaix, le corps de l'adolescente a été retrouvé sans vie. Une 30aine de bonbonnes de protoxyde d'azote ont été découvertes sur place par les policiers. Ce gaz hilarant est notamment utilisé pour un usage en cuisine ou encore en médecine, mais il est aussi très consommé par les jeunes pour un usage récréatif. Selon les premiers éléments de l'enquête, le décès de la jeune fille âgée de 17 17 ans semble donc lié à une prise excessive de protoxyde d'azote. Le débat sur la vente de ce gaz est relancé après la mort le 1er novembre de Matisse. Ce jeune de 19 ans a été percuté par une voiture à Lille. Le conducteur avait consommé du protoxyde d'azote.
Précision ici Nord. Plusieurs centaines de manifestants ont bloqué ce matin l'usine BASF de Saint-Aubin. Les Elbeufs, c'est près de Rouen. Ils dénoncent la production de pesticides et de rejets de polluants éternels dans l'environnement. La direction du site, elle dénonce l'introduction de certains de ces manifestants sur le site, des manifestants qui craignent que les accords Mercosur avec l'Amérique du Sud n'augmentent encore les exportations de pesticides vers ce continent. L'Amérique du Sud, où se poursuit la COP30 sur le climat ce week-end, de nouveaux pays, dont le Nigeria, se sont dit favorables à une taxe sur les billets d'avion, une idée portée par la France. Des compagnies aériennes qui, dans notre pays, doivent compenser leurs émissions de CO2. Ça concerne les vols intérieurs. Et c'est ce que fait une compagnie à bas coût, compagnie britannique, dans la Somme. Reportage près d'Abbeville, Sandy Dauphin.
Olivier Laigle est propriétaire forestier. Il vient de planter plus de 5000 jeunes arbres sur sa parcelle, tout près de la forêt domaniale de Crécy.
Là, vous avez du bouleau. Après, il y a du frêne, il y a du chêne.
La plantation, grande comme 6 terrains de football, a été financée par une compagnie aérienne low cost. Les arbres sont censés compenser une petite partie du CO2 rejeté par ces vols intérieurs.
Il y a un double intérêt, c'est-à-dire avoir du bois pour l'avenir et pour absorber le carbone.
Le projet est certifié par un label créé par l'État français en 2019, le label Bas Carbone, explique Olivier Glaise du Centre national de la propriété forestière, organisme qui accompagne les forêts privées.
Après 5 ans, il y aura un auditeur indépendant qui viendra contrôler le projet, vérifier qu'il n'y a pas un parking ou un champ photovoltaïque à la place d'une forêt déjà, et ensuite vérifier que tout le boisement n'est pas, par exemple, détruit et donc que sa vocation de captation de carbone soit remis en cause.
Coût du projet sur cette parcelle, entre 25 et 30 euros la tonne de CO2. Pour éviter que les compagnies aériennes n'aillent compenser ailleurs, dans des pays où c'est beaucoup moins cher, la réglementation française a prévu une clause.
Alors l'obligation de ces compagnies, elle est de compenser les émissions générées par ces vols domestiques. Et donc la moitié de ces émissions doit être compensée dans l'Union européenne.
Cette parcelle est censée capter au mieux 1200 tonnes de CO2, une goutte d'eau par rapport aux 1,5 million de tonnes générées chaque année par les vols intérieurs que les compagnies aériennes doivent désormais compenser. Le ministère de la Transition écologique doit publier un bilan du dispositif.
Au Chili, ce n'est pas la préservation de l'environnement, mais la crainte de la criminalité qui domine la campagne présidentielle. Le premier tour avait lieu hier. Et c'est bien la candidate qui porte les couleurs de la coalition de gauche, qui est arrivée en tête, la communiste Jeannette Jara, 26% des suffrages, mais elle est talonnée par le candidat d'extrême droite José Antonio Kast, 23,9% des voix, qui en plus, Nicolas Teillard, dispose de réserves de voix.
La troisième candidature présidentielle pourrait bien être la bonne pour José Antonio Kast, symbole de la poussée d'une extrême droite qui ne renie pas la période Pinochet et diffuse au contraire une certaine nostalgie de la dictature militaire. Fils d'un soldat allemand ayant combattu pour les nazis avant de s'exiler au Chili, José Antonio Kast tire les fruits d'une campagne où les questions de sécurité, d'immigration dominaient les débats dans un pays confronté à une hausse nouvelle de la criminalité. Ses costumes impeccables tranchent avec ses propositions radicales entre expulsion massive des étrangers en situation irrégulière et déploiement de l'armée en cas de nécessité. Partageant un peu plus qu'une cravate rouge avec Donald Trump, ce père de 9 enfants hostile à l'avortement a même emprunté au président américain l'idée de construire un mur à la frontière bolivienne. Il devrait pouvoir compter au second tour sur les électeurs d'un autre admirateur de l'ancien dictateur chilien, Johannes Kaiser, qui a lui récolté près de 14% des voix sur une ligne libertarienne proche de celle de Javier Milei.
Et le second tour aura lieu dimanche 14 décembre. C'est un vaccin très efficace contre le développement des papillomavirus humains. Encore faut-il que les populations y aient accès. Et quand c'est le cas, les résultats sont là. Selon l'alliance du vaccin Gavi, le renforcement des campagnes ces 3 dernières années a permis de sauver 1 million de vies à travers le monde. Des femmes qui seraient mortes sans ce vaccin du cancer du col de l'utérus. Victor Dolande, on vous retrouve. Tout cela s'est déroulé dans les pays les plus pauvres.
Oui, et c'est grâce à l'alliance Gavi, financée en grande partie par la fondation Bill et Melinda Gates, qui négocie des vaccins à bas prix pour les pays pauvres. En l'espèce, les sérums contre les papillomavirus ont été achetés entre 2,90 $ et 5 $ pièce, contre 100 $ pour ce même vaccin dans les pays riches. Un effort d'autant plus intéressant quand on sait que les pays pauvres concentrent 90% des 350 000 décès dus au cancer du col de l'utérus chaque année.
Ce vaccin existe aussi pour les jeunes Français, mais ça ne prend pas, Victor.
Non, la vaccination a été relancée en 2010 pour les filles, en 2021 pour les garçons, et même réintroduite au collège en 2023, mais pour le moment ça coince. Seuls 26% des garçons de 15 ans et 55% des filles sont protégés. Faible, trop faible pour Julia Maruani, gynécologue médicale et vice-présidente de la Société française de colposcopie et de pathologie cervico-vaginale.
Aujourd'hui, on est encore très en retard par rapport à d'autres pays qui vaccinent depuis à peu près la même durée que nous. On a des pays comme le Portugal, l'Angleterre qui ont atteint 90% de taux de vaccination. Donc oui, on est en retard. Probablement qu'il y a pas mal de difficultés d'information par rapport à ce vaccin. Il y a aussi bien sûr toujours une partie de la population qui est opposée à la vaccination.
Il faut atteindre plus de 80% d'ados vaccinés pour couper la circulation de ces virus. L'exemple à suivre, Jérôme, c'est l'Australie qui a lancé un programme de prévention efficace en 2007 et qui est en passe d'éradiquer le cancer du col de l'utérus sur son sol.
Merci Victor Dolande. Un couple sur quatre désireux de faire un enfant serait confronté en France à des problèmes d'infertilité selon l'Institut National d'études démographiques. Un sur quatre, et pour les couples qui y font face, le parcours peut être extrêmement long. Ainsi en Creuse, Marie-Jeanne Delpol a rencontré Cécile et Dominique qui travaillent tous deux à l'hôpital de Guéret. Ils se sont battus pendant 22 ans pour accueillir un enfant qu'ils ont finalement adopté.
Cécile et Dominique rêvaient d'agrandir leur famille, mais après leur mariage, rien, pas de bébé. Ils commencent alors les allers-retours fréquents à l'hôpital de Clermont-Ferrand et se lancent dans des FIV, des fécondations in vitro. Cela signifie des piqûres d'hormones et de nombreux rendez-vous médicaux pour Cécile.
Ça demande une certaine énergie. Le corps, il a du mal à... physiquement, j'ai un petit peu grossi. C'est un ascenseur émotionnel parce qu'on y croit. Cette fois, c'est la bonne et puis en fin de compte, celle-là, c'est plus la bonne. Dans notre couple, c'est compliqué aussi parce que on le vit pas de la même façon.
Heureusement, ils se sentent soutenus par leurs proches, mais autour d'eux, les grossesses se multiplient.
La pire situation, moi, c'était quand j'ai travaillé avec des collègues qui étaient très jeunes et qui j'ai vu toutes avoir des enfants. Et je les ai vues à la fin, ne sachant plus comment me dire « je suis enceinte », alors que j'étais très contente pour elles. Mais je félicitais les autres et je voulais qu'on me félicite.
Et c'est finalement après 14 ans de FIV et 8 ans de dossier d'adoption qu'ils deviennent parents en accueillant leur petit garçon de 8 ans.
On ne s'y attendait plus du tout. On avait, je pense, l'un et l'autre fait le deuil de tout ça. Et effectivement, il est arrivé, comme quoi il faut toujours espérer.
Depuis des années qu'on attend, enfin, on a ce bonheur. Ouais, j'en ai encore les larmes aux yeux quand j'y pense.
Reportage ici Creuse, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Stéphanie Fromentin. Puis notre invitée, la directrice générale de la SACEM. Vos questions sur les droits d'auteur. Si vous organisez des événements, par exemple, 01 45 24 7000, on parle aussi de la révolution de l'intelligence artificielle et du danger qu'elle représente pour les créateurs de musique. 13h45, notre feuilleton avec les vulcanologues. Nous sommes au pied du volcan italien, le célèbre Stromboli. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cécilia Arbona et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cécilia, vous nous parlez d'arbres.
Oui, on ira à Metservice dans l'étude de Benoît Hartenstein. Il est notaire et il a couché un platane et un séquoia sur les testaments de particuliers. À leur décès, héritiers et nouveaux propriétaires devront prendre soin de ces arbres, interdits de les abattre.
Ça se passe en Moselle. Et avec vous, Frédéric, une musicienne.
Elle est violoniste, chef d'orchestre, fondatrice du Traffic Quintet. Il s'agit de Sol Re, dont l'opéra-film Ciao Casanova sera présenté la semaine prochaine à la scène musicale. Et avec elle, nous écouterons de la musique brésilienne, un morceau de Chico Buarque.
Merci à tous les deux, à tout à l'heure.
France Inter présente Oli.
O-L-I.
Le premier podcast d'histoire pour enfants. Et ce mois-ci...
Bonjour, je suis Jessé et je vais vous raconter l'histoire d'Armand le Flamand.
Une autre.
Bonjour, je suis Mylan Chapiron et je vais vous raconter l'histoire de Yipié et le prout magique.
Oui. Plus de 160 histoires à retrouver sur Mon Petit France Inter et sur l'appli Radio France.
Avec France Inter, un podcast par jour, des acquis pour toujours.
Depuis 2500 ans, les grands courants philosophiques et spirituels du monde s'accordent sur quelques thèmes essentiels qui peuvent changer notre vie.
Frédéric Lenoir.
Dans mon nouveau livre, je vous dévoile ces 5 piliers universels de la sagesse. La connaissance, l'éthique, la présence, l'acceptation et l'amour. Surtout, je montre comment en faire 5 clés qui permettent de se connaître soi-même, de grandir en joie, en sérénité et en liberté.
Les 5 piliers de la sagesse de Frédéric Lenoir. Un livre Albin Michel.
Akena.com. Akena.com, ok.
Attention Chantal, c'est à vous.
Vous cherchez votre véranda, votre pergola, un carport ou un poulaouse? Inutile de faire une recherche ailleurs, tapez directement Akena.com.
Oh là là, t'as vu Victor, la première prise c'était la bonne.
Eh oui Coco, c'est un métier.
Véranda, pergola et carport sur
Akena.com.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme.
Les conditions restent maussades aujourd'hui.
Et le ciel est encore bien bâché sur la Nouvelle-Aquitaine, l'ouest de l'Occitanie, jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans l'après-midi, les pluies faiblissent pour se cantonner majoritairement au massif nord-alpin et pyrénéen. Elles se transforment en neige vers 1600 mètres. Les précipitations sont plus marquées et durables sur le Jura. Ailleurs, le soleil offre de belles éclaircies entre quelques passages nuageux, voire quelques pluies sur le quart nord-ouest jusqu'aux frontières du nord. Il reprend plus franchement l'avantage sur le pourtour méditerranéen à la faveur du Mistral et de la Tramontane qui se fortifie. Le ciel de Corse, lui, reste perturbé.
Et les températures vont encore baisser ces prochaines heures ?
C'est ça, c'est la dépression Claudia, responsable des intempéries de ce week-end, qui cède la place à une puissante descente polaire qui s'apprête à envahir l'ensemble de l'Europe de l'Ouest jusqu'au Maroc. Dans un premier temps, la baisse des températures se fait de manière progressive. Les maximales aujourd'hui oscillent entre 8 et 17 degrés du nord au sud, 11 à Paris, 18 à Saint-Jean-du-Gard. Et dès mardi, les gelées matinales seront fréquentes. Les températures peineront à dépasser 5 degrés l'après-midi, notamment entre le nord-est et le Massif central.
Stéphanie Fromentin.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Cécile Rapp-Weber.
Bonjour Jérôme.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes la directrice générale de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Vous êtes un organisme privé à but non lucratif. Vous gérez les droits d'auteur. Vous collectez directement ces droits d'auteur avant de les reverser. L'an dernier, vous avez collecté 1,6 milliard d'euros, plus 8% sur un an, dont plus de 40% désormais issus des revenus numériques via le streaming ou encore les réseaux sociaux. Le numérique est devenu votre premier poste de ressources. Mais vous êtes extrêmement préoccupé par l'écoute de musique générée par les intelligences artificielles. La semaine dernière, pour donner une idée du phénomène, la plateforme Deezer révélait qu'un tiers, des 40 000 morceaux mis en ligne quotidiennement sur sa plateforme étaient désormais générés par l'intelligence artificielle. Avec quel droit d'auteur ? On va en parler ensemble. 01 45 24 7000 pour toutes vos questions. Vous passez aussi, chers auditeurs, via l'application Radio France. Cécile Rapp-Weber, d'abord un mot du fonctionnement de la SACEM. Auprès de qui est-ce que vous collectez les droits d'auteur ?
Alors, nous collectons les droits d'auteur auprès de tous les professionnels qui diffusent de la musique. Donc, bien évidemment, une radio, notamment.
France comme Inter.
Totalement, ouais. France Inter. Évidemment, les chaînes de télévision, les producteurs de concerts, de spectacles vivants, et puis tous les commerçants qui diffusent de la musique pour l'attractivité que ça procure auprès des consommateurs.
Je passe de la musique dans mon bar, dans mon restaurant, il faut
Exactement.
Que je fasse une déclaration tous les mois à la SACEM ?
Totalement. Alors, peut-être pas tous les mois.
Non,
heureusement, on a des outils. On a des outils qui font qu'on a un contrat qui est annuel et puis on n'a pas besoin de faire des déclarations. Ce qui est important dans les déclarations, en revanche, c'est de dire ce que vous passez comme musique. Est-ce que vous passez de la radio ? Est-ce que vous passez des playlists faites par des professionnels ? Ou est-ce que vous faites, par exemple, des concerts pour lancer des jeunes artistes dans votre bar ? Et là, vous nous faire des déclarations de programme pour que nous puissions répartir l'argent aux œuvres qui ont été exécutées dans votre bar.
Je mixe dans des soirées, même chose ?
Alors, si c'est des soirées privées, non.
Privées, non.
Non, il n'y a aucun problème, non. En revanche, on est dans le cadre du concert d'un DJ ou dans un bar qui veut mettre de l'ambiance avec un DJ. Là, c'est un professionnel qui diffuse de la musique, donc il a normalement un contrat avec nous.
J'ai lu que la musique qu'on diffuse à des enterrements, par exemple, était soumise à droit d'auteur.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je le dis parce qu'il y a eu un grand témoin autour de ce sujet. En fait, il y a un certain nombre d'années, les pompes funèbres sont venues voir la SACEM pour expliquer qu'elles voulaient pouvoir diffuser et offrir en fait la capacité de diffuser toutes les musique du monde entier lors des cérémonies. À l'époque, on avait fait un contrat. Les pompes funèbres sont revenus sur leur décision et ont voulu faire un procès à la SACEM pour récupérer l'argent qui avait été payé. Et le magistrat n'y met absolument pas. Vous facturez, vous, OGF et autres pompes funèbres, une prestation sur la musique. Il est normal que les droits d'auteur soient acquittés. Et nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes mis d'accord. Nous avons un forfait symbolique qui est aux environs de 1 euro par enterrement et qui est pris en charge directement par les organismes de pompes funèbres sur leur marge. Donc non, nous ne taxons pas les morts comme j'ai pu l'entendre, jamais. Nous avons uniquement des accords avec OGF qui eux-mêmes
avec
prennent 7 euros.
Voilà. Ouais. Si je diffuse un artiste étranger, pareil, c'est vous qui collectez aussi les droits d'auteur, ça ne concerne pas que les artistes français.
Alors la SACEM, elle est devenue un acteur mondial. Non seulement elle représente tous les artistes du monde entier en France, mais depuis l'avènement du streaming, on va peut-être y revenir, des plateformes qui sont globales comme YouTube ou comme Spotify, nous représentons désormais les plus grandes stars du monde entier sur 150 territoires dans le monde.
Les artistes disparus, qui touchent les droits d'auteur ?
Ce sont leurs ayants droit. Vous savez que le droit d'auteur est protégé jusqu'à 70 ans après le décès de l'auteur.
Vous avez passé donc des accords avec des grands groupes pour pouvoir posséder, pour pouvoir toucher cet argent des droits d'auteur, c'est ce que vous nous dites, Cécile Rapp-Weber, ça a été
avec toutes les plateformes
l'un de vos
digitales,
combats de ces dernières années.
Totalement. Depuis 2013, on opère dorénavant, comme je le disais, sur plus de 150 territoires dans le monde. Nous avons des accords globaux avec ces plateformes que sont YouTube. Donc, quand David Guetta ou Taylor Swift, par exemple, ou Clara Luciani, sont écoutés ou regardés sur des vidéos à travers TikTok ou YouTube, dans un des 150 territoires que nous couvrons, ils sont rémunérés.
Quel est l'artiste qui a reçu le plus de rémunération ?
Je ne le dis jamais, ça change tous les ans.
Non,
parce qu'en fait, ça change si jamais vous avez une énorme tournée d'un seul coup. Vous allez toucher plus d'argent une année, mais pendant les deux années qui vont suivre la tournée, vous allez toucher moins. Donc, ça n'est jamais exactement le même.
La révolution de l'intelligence artificielle chamboule tous les secteurs d'activité. Également, la musique, pour se donner un peu une idée de la croissance qui est fulgurante de la musique générée par l'intelligence artificielle. Je voudrais vous faire écouter ce morceau, Breaking Rust. Walk My Walk, c'est un... Est-ce qu'on peut en écouter un extrait ? You can kick rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. Ce chanteur country virtuel généré par l'intelligence artificielle a atteint la semaine dernière le sommet des ventes aux États-Unis. Cécile Rapp-Weber, est-ce que ce titre-là, c'est une œuvre pour vous ? Est-ce que c'est une œuvre d'art ?
On n'arrive pas encore à savoir s'il y a quelqu'un d'humain derrière. C'est-à-dire que l'artiste lui-même qui interprète peut être une IA, mais on ne sait pas si l'œuvre, les paroles et la composition ont été faites ou pas par un être humain. On a eu le même phénomène l'été dernier avec The Velvet Sundown sur Spotify, qui avait 2 millions de followers. Et il y a un autre phénomène qui a été mis en lumière aussi, où il y a une artiste dont j'ai oublié le nom, mais qui est une artiste 100% virtuelle. Et en fait, on a appris que la compositrice était une vraie compositrice et qu'en fait, elle avait utilisé l'IA pour avoir un avatar. Donc on voit, c'est beaucoup plus complexe que de se dire, tiens, ça sort d'une intelligence artificielle.
Il peut y avoir du 100% IA, mais après, il y a plein de déclinaisons possibles. C'est
exactement,
ça que vous
dites ? Totalement. Il peut y avoir aussi, en fait, du 100% créé, mais qui, par l'enregistrement, devient de l'IA. Mais l'œuvre initiale peut avoir été faite par des êtres humains.
Yann nous appelle de Saint-Brieuc. Bonjour Yann.
Oui, bonjour.
Nous vous
bonjour,
écoutons.
Madame.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame. Je suis un créateur de chansons, donc paroles et musique, depuis 1988. Mais depuis un an, j'utilise un outil numérique d'aide à la composition pour mettre en musique mes textes. Dans le même temps, j'ai demandé à la SACEM que devenait mon statut vis-à-vis de l'utilisation de cet outil numérique. On m'a répondu que, parole et musique étant indissociables, je pouvais m'enregistrer comme auteur-compositeur. Donc à l'heure actuelle, je souhaiterais connaître si la position de la SACEM est toujours identique ou si elle a évolué.
Merci Yann pour votre question, Cécile Rapp-Weber.
Alors en fait, tout dépend de la façon dont vous dites que vous êtes accompagné par cet outil. Est-ce que votre prompt, vous faites un prompt détaillé ou est-ce que c'est finalement la machine qui génère elle-même la composition pour accompagner vos paroles ?
Je fais un prompt détaillé, mais j'indique une suite d'accords, si vous voulez, pas la mélodie.
Très bien. Alors, en fait, ce qui est important pour nous, c'est qu'en fait, il y ait une participation active du créateur dans le prompt, en fait, qui est fait. Ce qui veut dire que la machine IA n'a pas d'elle-même généré. Si vous n'aviez pas donné les accords et un certain nombre de directions, on pourrait dire qu'il n'y a pas, finalement, votre personnalité qui est dans l'œuvre. Donc, à ce jour, moi, je dirais que vous pouvez déposer paroles, parce que ça, c'est sûr, vous les avez écrites, et compositions, parce que vous avez donné un prompt suffisamment détaillé pour que la machine élabore. En revanche, on a des cas où si demain, je me mets à prompter chez Suno ou Udio...
C'est quoi prompter, pardon, Cécile
Rapp-Weber ? Prompter, c'est donner, en fait, une recommandation, une demande. C'est un peu comme dans ChatGPT, quand vous dites... Fais-moi mon article pour demain.
D'accord, ce que je ne fais pas.
Mais heureusement, c'est pour ça que France Inter est numéro un. Le prompt, c'est tout simplement les consignes que vous donnez à la machine pour qu'elle puisse, des IA génératives, pour qu'elle puisse vous générer un contenu. Et si jamais je dis demain dans mon prompt, fais-moi une musique à la Mozart, il n'y a strictement aucun apport créatif de ma part. Et ça, on considère que ça ne peut pas être protégé.
Donc Yann, dans ce cas précis, peut déposer sa création auprès de la SACEM et il touchera des droits d'auteur à chaque fois qu'elle sera diffusée.
Exactement.
Si moi, je dis à l'IA, fais-moi un titre à la Jacques Brel et que l'IA crée paroles, musique et que ça cartonne, je ne peux pas déposer à
la SACEM. Non, vous ne pouvez pas déposer à la SACEM.
Pourtant, c'est moi
qui ai
eu l'idée. Ou si je donne un thème, si je dis fais-moi un texte à la Jacques Brel
en fait,
avec tel et tel paysage, avec je donne une liste de mots, par exemple.
À partir du moment où vous faites un prompt qui permet effectivement de diriger, guider un peu la machine, oui, on peut estimer qu'à ce moment-là, c'est protégeable. Alors, évidemment, ça va requérir un certain nombre de détails quand même, pas simplement genre Jacques Brel, il fait beau. Mais,
il va falloir aller un peu plus loin, il va falloir que je le prouve.
Exactement. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de travailler aussi à un dépôt des prompts à la SACEM.
Mais c'est un travail considérable pour vous de démêler part de l'humain dans les créations.
Ce qui est fantastique dans la musique et ce qui est fantastique dans la SACEM, c'est qu'on a deux jambes. On a une jambe qui est territoriale et je voudrais vraiment en revenir dessus, notamment à l'occasion de l'ouverture demain du Salon des Maires. Mais il y a une autre jambe qui est globale, qui est mondiale et qui nous oblige à nous transformer et on est devenu une vraie data company. En fait, l'année dernière, on a processé plus de 5 000 milliards de data parce que chaque stream du monde entier nous est envoyé pour qu'on l'analyse et qu'on sache si oui ou non nous avons des artistes, des créateurs que nous représentons dans ce qui a été écouté par les gens à travers 150 territoires. Donc vous avez raison, c'est un travail considérable, mais l'IA, pas génératif, l'IA va nous aider aussi, on l'a déjà mis en place dans pas mal de développement interne.
Est-ce que vous suspectez certaines plateformes de créer elles-mêmes de la musique via l'intelligence artificielle pour ne pas avoir ensuite à reverser des droits d'auteur ? Aucune ne reconnaît le faire. Deezer, qu'on a entendu la semaine dernière sur France Inter, dit nous, on ne fait pas ça. Spotify refuse également ces suspicions, mais enfin, elle persiste quand même. Et Spotify est régulièrement accusé.
Je ne dirais pas que les plateformes vont elles-mêmes jusqu'à fabriquer les contenus. Ce qui est sûr et certain, c'est que Deezer a décidé, et je crois que c'est très important, de les taguer, de les identifier comme étant des titres IA pour que le consommateur soit informé, puisque le consommateur lui-même ne peut pas reconnaître. Nous, on a déjà travaillé avec Deezer sur pas mal de mises de côté, de contenus qu'on estime ne pas être de la musique, comme ce qu'on appelle les bruits blancs ou les bruits parasites, des bruits d'aspirateur, le vent dans les feuilles, qui permettent à certaines personnes de s'endormir. Nous, on a dit que ça ne doit pas être comptabilisé, ça ne doit pas venir diluer la rémunération des vrais créateurs. On espère que sur le pur IA génératif, c'est ce qui va se passer aussi.
Michel est en ligne avec nous de Moselle, de Sichazel. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, je voulais dire que moi, je ne suis pas très content, mais je veux dire que pour l'intelligence artificielle, les vrais artistes, les vrais originaux n'ont rien à craindre. Je veux dire, surtout, nous, on a des médiateurs pour écouter de la musique, c'est-à-dire on n'a pas la science infuse, moi-même, je n'ai pas l'oreille, mais j'écoute des médiateurs, notamment sur France Inter, il y a Alina Fanoukoé, il y a Anna Sigalevich, enfin il y en a beaucoup d'autres.
Ouais, des gens
je veux dire que l'intelligence artificielle, eh ben, quand c'est pas original, eh ben, tant pis, ça sera pour les gens qui vont au fast-food, Et puis il y aura toujours des gens qui vont dans les bons restaurants.
Le fast-food de la musique et puis la qualité, si je puis dire. Merci Michel. Cécile Ramweber, votre avis ? Est-ce que ça peut pousser les compositeurs, les créateurs à être encore meilleurs ?
Alors, je pense qu'il y a des créateurs qui auront finalement une relation avec leurs fans qui subsistera toujours grâce au live. Je pense quand même qu'il y a énormément de musique dans notamment les dessins animés, dans les films, dans les téléfilms, dans l'habillage. Et c'est pas automatiquement identifiable. Et moi, je trouve que c'est totalement injuste que les IA aient pillé toute la culture qui était disponible. Toute la culture, pour finalement régurgiter des contenus qui peuvent ressembler, ce que j'appellerais un peu le Canada Dry, pour les plus vieux, ils me comprendront, finalement,
ça a l'allure de la musique,
qui vient
ça en
directement
pas.
Concurrencer les créateurs. Mmh. En fait, il n'y aurait pas d'IA générative s'il n'y avait pas eu la culture en amont sur laquelle ces IA se sont entraînées. Et personne n'a été rémunéré pour ça. Et ça, c'est le combat de la SACEM.
Cécile Ramweber, vous en avez dit un mot. Le travail de la SACEM pour la création. Vous annoncez aujourd'hui la création d'un fonds de dotation pour la création. De quoi s'agit-il ?
Alors, jusqu'à présent, nous avons accompagné, grâce à ce qu'on appelle l'action culturelle, un certain nombre d'acteurs importants qui sont locaux dans tous les territoires, les festivals, mais aussi certains commerces, évidemment, les acteurs locaux, tout ce qui est institutionnel, municipalités, on les a accompagnés pour que vive la musique dans les territoires. Nous, on a 60 antennes à travers la France, on a des sociétaires partout en France et on veut être au plus près non seulement de nos sociétaires, mais évidemment aussi de ceux qui font vivre la musique. Ce sont les commerçants, ce sont les collectivités territoriales, ce sont les festivals. Et donc, on a jusqu'à présent investi à peu près 17 millions d'euros dans les territoires pour pouvoir promouvoir la création, la diversité, l'émergence. Et nous créons un fonds de dotation parce qu'aujourd'hui, vous le savez, les pouvoirs publics, c'est de plus en plus compliqué.
Se désengagent.
Exactement. Et la contraction des budgets fait qu'aujourd'hui, on a très peur que les gens ne puissent plus avoir accès à la culture comme avant. Encore plus, moi, ce que j'appelle le dernier kilomètre, ou parfois dans les villages, ou dans certaines cités, on
a
encore plus de mal.
Cet argent va aller aux petites salles, par exemple ?
Eh bien, moi, ce que je veux, c'est qu'on développe un certain nombre d'opérations à travers un fonds de dotation. Donc maintenant, c'est à nous d'aller chercher des mécènes pour venir compléter ces 17 millions, et je l'espère à arriver à 20-25 millions d'aides au territoire. Il y a notamment deux programmes phares, quand on parle des petits commerçants, c'est tous en live. Dans des petits cafés de village, nous proposons de cofinancer la rémunération d'un artiste pour qu'il puisse venir se produire et que le village puisse se regrouper dans ce lieu de vie grâce à la musique. Et puis il y a ce qu'on appelle les fabriques à musique, qui est une résidence d'environ 16 heures d'un artiste créateur qui vient créer une chanson avec une classe. Et on pense que voilà, ça crée des vocations, ça ouvre l'esprit et surtout, ça rassemble une classe autour d'un même projet pour des jeunes qui sont de plus en plus isolés avec les réseaux sociaux.
Merci Cécile Ramweber d'avoir accepté l'invitation de France Inter.
Merci
aujourd'hui.
À vous.
Directrice générale de la SACEM, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie. Notre feuilleton qui, pour une fois, nous emmène loin de la France. Grâce à Adrien Serrière, nous passons toute cette semaine sur l'île de Stromboli, au nord de la Sicile. 400 habitants à l'année et évidemment l'un des volcans les plus actifs au monde. Des groupes de scientifiques viennent régulièrement l'étudier.
Donc là, en fait, on est directement dans le vent. On est dans la direction du vent par rapport au cratère. Ouais, c'est bon, je t'entends. Et donc du coup, il y a eu une explosion peut-être il y a, je sais pas, il y a 10 minutes, la dernière. Et comme on est dans le vent, on reçoit actuellement des petites cendres volcaniques. On le voit parce qu'on tombe un peu sur l'ordinateur.
Ouais, du coup, là, on se dirige vers le nord de l'île où on peut un peu mieux voir le volcan. C'est vraiment l'endroit où la majorité des matériaux des éruptions se propagent, en fait. Ça peut rouler jusqu'à la mer. Et c'est de ce point de vue, on va pouvoir mouvoir le mieux les cratères actifs du volcan, en fait.
Donc du coup, je suis Simon Thivet. Je suis actuellement chercheur à l'Université de Genève en tant que post-doctorant. On est ici à Stromboli pour étudier un petit peu le comportement du volcan et comment les différents types de panaches peuvent sédimenter et se comporter dans l'atmosphère. Donc voilà, on a différents types d'instruments.
Donc du coup, on a deux types de caméras. Une caméra donc c'est des choses qui sont construites dans nos laboratoires respectifs. Donc c'est juste une petite caméra optique, hein, donc une caméra plutôt normale qu'on a fait pour surveiller les éruptions, quel type d'éruption on a.
La plus grosse boîte à droite, c'est une caméra ultraviolet. Donc c'est l'ultraviolet, avec ça, on va pouvoir mesurer le soufre qui est émis lors des éruptions, le SO2. Et ça va pouvoir nous renseigner un petit peu sur quel type d'explosion, sur la fréquence des explosions. Et le but ici, c'est de corréler les mesures qu'on peut faire à distance avec ces caméras-là, de corréler ça avec les mesures qu'on peut faire avec le drone qu'on a installé ici. Donc une fois qu'on sera prêt, là, longtemps.
Oui, ça peut décoller.
Ok, merci. On finit de calibrer la caméra UV et puis après je décolle. It's inside?
I don't think so.
Non.
Tu l'as pris ou pas? On a le petit bout de la pompe l'eau.
Là actuellement, les éruptions qu'on voit, ça fait des petits panaches de quelques centaines de mètres maximum. Les plus grosses, les éruptions paroxysmales, ça peuvent provoquer un panache qui va atteindre 5, 6, 7 km de haut au grand maximum. Donc ça n'a rien à voir en fait, là c'est vraiment à une autre échelle. Bah, le but c'est de rentrer dans les panaches qui sont créés par les éruptions, donc c'est risqué, mais on essaye d'avoir les données les plus proches possibles. Parce qu'après, une fois que le nuage sort du cratère, bah, ça se dilue avec l'atmosphère, ça... Donc du coup on n'a pas vraiment les données qu'on voudrait avoir pour comprendre vraiment ce qui se passe à la source des éruptions. La volcanologie moderne, on va dire qu'elle a 40-50 ans. La technologie, c'est de mieux en mieux, donc on a des instruments de mieux en mieux tous les jours. Mais il y a quand même des choses qu'on n'a toujours pas compris, qu'il faut mieux caractériser, sinon on ne serait pas là. Il y a d'autres volcanologues, ici à Stromboli, c'est voilà, les volcanologues italiens, qui surveillent le volcan tous les jours, donc ça, il y a vraiment besoin tous les jours. Mais il y a forcément des processus qu'on n'a pas encore compris. Donc nous, dans notre cas, c'est vraiment comment les particules retombent, comment elles impactent les processus physico-chimiques au sein du panache, en fait. Donc voilà, c'est assez technique après, c'est pour ça qu'il faut faire de la recherche, toujours, sur ces choses-là. In fine, c'est important pour les risques, en fait, par rapport aux populations qui vivent ici à Stromboli.
Une semaine au pied du volcan Stromboli, feuilleton signé Adrien Serrière. Vous retrouvez ces reportages en vidéo et en version longue sur les réseaux sociaux d'Inter.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le lundi 13h50, un lieu, une personnalité dans la lumière, grâce à Cécilia Arbona. Et aujourd'hui, Cécilia, nous sommes avec vous à Metz-Service, en Moselle, chez un notaire qui murmure à l'écorce des arbres.
Arrière-petit-fils de bûcheron, petit-fils et fils de menuisier, Benoît Hartenstein a de la sève qui coule dans ses veines. Il a grandi au milieu des sapins. Pendant ses études de droit, il réalise qu'il n'existe pas de statut pour protéger les végétaux remarquables. Ils font partie de notre patrimoine, mais on les traite comme de vulgaires poteaux électriques, dit-il. Membre de l'association La Voix de l'Arbre, ce notaire veut instaurer un nouvel article dans le Code civil. Les arbres sont des organismes vivants aux bienfaits d'intérêt général.
Et c'est une transaction qui a concerné une haie de cyprès qui a tout déclenché.
Oui, un arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2019 a validé une clause particulière après la vente d'un terrain. Un habitant d'Elne dans les Pyrénées-Orientales s'était entendu avec les nouveaux propriétaires pour préserver une bordure de cyprès. Une promesse non tenue car des arbres ont été tronçonnés. Alors, le catalan a saisi la justice qui lui a donné raison après 8 ans de procédure. Les acquéreurs ont été condamnés à replanter les cyprès manquants au même endroit.
Et depuis cette affaire, des particuliers couchent des arbres sur leur testament.
Comme Marie-Claude, 77 ans, qui vit à Thiaucourt, en Meurthe-et-Moselle. Cette ancienne professeure de français veut que son platane lui survive. « Il est tellement beau, dit-elle. Les promeneurs s'arrêtent pour l'admirer. Un jour, un jeune homme m'a supplié de le laisser grimper là-haut. J'étais méfiante, mais il a insisté en me disant « Les arbres, c'est ma passion. Je ne lui ferai pas de mal. » J'ai cédé. Ce garçon, prénommé Rémi, a passé la journée entière perché dans les arbres. Il avait même prévu un pique-nique pour profiter. Marie-Claude, qui n'a pas d'enfant, va léguer sa maison à des amis. Ils savent que le platane fait partie intégrante de mon héritage.
Et près de Montargis, dans le Loiret, là, un couple a carrément inscrit un séquoia dans son testament.
Oui, c'est notre deuxième enfant, confirme avec beaucoup de sérieux Stéphanie, qui est juriste de formation. Après sa rencontre avec son futur mari, Michael, elle lui avait offert un petit séquoia pour leur premier Noël. Il trône aujourd'hui en majesté dans le jardin, 7 mètres de haut, plus de 3 mètres d'envergure. Je lui ai même donné un petit nom. C'est Coco, s'amuse-t-elle. Notre fils Jean, qui a 10 ans, sait qu'il devra veiller sur lui plus tard. D'ailleurs, c'est noté dans notre testament. Nous imposons à tous nos héritiers l'obligation de conserver et de prendre soin du séquoia toute sa vie durant. Les ayants droit aussi devront faire de même. Pour Stéphanie, c'est normal. Cet arbre est comme nous, il respire. Et elle confie, l'été, mon mari s'assure qu'il est bien hydraté. Il lui donne des douches avec le tuyau d'arrosage. Moi, je le caresse et je le rassure les jours de grand vent.
Ce 13-14 jeudi sera consacré à nos forêts. En pleine COP climat, nous serons en direct du Tarn et entourés d'arbres. Merci Cécilia Arbona de C'est la France. Ah, c'est une chanson, c'est une chef d'orchestre qu'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier. Il s'agit de Sol Ray.
Elle a commencé sa carrière comme violoniste classique et la poursuit désormais en explorant le dialogue entre le son et l'image avec des projets nourris de cinéma, d'art plastique et de vidéo, à l'instar de l'opéra-film qu'elle présentera la semaine prochaine à la scène musicale « Ciao Casanova ». Et c'est d'un morceau du Brésilien Chico Buarque que Sol Ray a souhaité parler.
Je me suis intéressée très jeune aux musiques dites folkloriques, genre zigane, tango, parce que je pouvais jouer du violon et que c'était un instrument très mis en valeur dans ces musiques. Et plus tard, j'ai rencontré la bossa nova, les voix de la bossa nova qui m'ont hypnotisée, cette espèce de douceur mélancolique qu'on peut trouver dans la musique brésilienne. Et j'ai trouvé que ce qu'elle proposait musicalement était comme un continent.
Et cette musique, elle vous apportait du voyage ?
Oui, toujours. Parce que j'ai toujours cherché le voyage. Le voyage physique, le voyage intellectuel, le voyage imaginaire. Je suis vraiment quelqu'un qui aime le mouvement.
Est-ce que vous vous souvenez de la personne qui vous a fait découvrir la musique brésilienne ?
C'est Alexandre Desplat qui m'a fait découvrir ce chanteur particulièrement et toute la musique brésilienne.
Alexandre Desplat, qui est votre amoureux ?
Mon amoureux, avec qui je partage tout mon amour de la musique aussi, avec qui je travaille depuis toujours, quasiment. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Meus
Ce morceau, Frédéric, Deus Liepague, est sorti en 1971.
Oui, sur le cinquième album studio de Chico Buarque, un album chargé de critiques envers le régime militaire de l'époque. Et c'est aussi pour cette raison que Sol Ray aime tant ce disque et cette chanson.
Cette musique est comme une litanie, comme quelque chose d'inexorable. Et puis c'est une musique contestataire contre la dictature. Ce rythme extrêmement dense vous tire comme ça vers quelque chose de pathétique, quelque chose de dramatique. Mais cette construction en couches, en strates comme ça, parce qu'elle commence avec des toutes petites percussions, puis elle finit dans une espèce d'hymne avec les chœurs, la musique symphonique, les cordes. Je trouve ça fabuleux. Et en plus, il y a un élan vital qui dit « je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas ».
Vous, c'est une phrase qui vous est arrivée de dire beaucoup, « je ne lâcherai pas ».
J'ai été obligée, je crois, de ne pas lâcher. Oui, j'ai subi des épreuves dans mon existence, puisque j'étais violoniste pendant de nombreuses années et j'ai perdu ma main gauche. Donc j'ai été obligée de me réinventer. Pela fumaça, desgraça que a gente tem que tossir. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair.
Quand vous disiez « j'ai perdu ma main gauche », vous avez perdu la mobilité de votre main gauche.
J'ai perdu ma main de virtuose, ma main de violoniste. J'ai une main commune aujourd'hui. Mais j'aurais pu continuer. Mais j'ai préféré arrêter pour justement me consacrer à quelque chose où la frustration n'était pas aussi présente.
C'est un accident ?
C'est un accident. Une opération au cerveau qui s'est mal déroulée.
Donc à ce moment-là de votre vie, vous avez été contrainte de dire « je ne lâcherai pas ».
Tout à fait. Et je n'ai pas lâché. «
Est-ce que d'avoir découvert la musique brésilienne, ça vous a mis dans le cerveau et dans les yeux de nouvelles couleurs, de nouveaux horizons ?
Ça met du groove et quelque chose de fluide, quelque chose qui n'est jamais raide, qui n'a pas de barrière, qui n'a pas vraiment de frontières. Cette musique donne de la force, je trouve.
Deus lié pagué, Chico Buarque, c'était donc Frédéric, le choix de la chef d'orchestre Sol Ray.
Sol Ray qui présentera son opéra-film Ciao Casanova le 26 novembre à la Scène Musicale à Paris.
Merci Frédéric et à demain. Stéphanie Duncan, le fil de l'histoire à suivre.